France Musique. Philippe Venturini, sous la couverture, France Musique.
Bonjour, il déclare volontiers qu'il aurait aimé être musicien, mais Michel Onfray est devenu philosophe et il dit avoir appris le style philosophique et avoir appris à écrire en écoutant de la musique, en écoutant en amateur au sens noble du terme, c'est-à-dire en dégustant comme on apprécie un bon vin et en se laissant aussitôt envahir par l'émotion. La recherche du plaisir semble avoir ainsi guidé la passion musicale de Michel Onfray. Rien d'étonnant pour l'auteur de L'art de jouir pour un matérialisme hédoniste, auteur de La philosophie du goût ou également du manifeste hédoniste. Auteur de quelques 80 livres, Michel Onfray a entrepris le projet ambitieux de rédiger une brève encyclopédie du monde sous la forme d'une trilogie. Le premier volume intitulé Cosmos a été récemment réédité en collection de poche. Si on y traite autant de languilles lucifuges que de tauromachie ou du land art, la musique n'est pas oubliée et est convoquée dans ce panorama du cosmos, autant à travers le mythe d'Orphée que comme un langage dont l'objet reste à déterminer. La réédition de Cosmos et la parution d'un recueil de haïku, L'éclipse de l'éclipse avant le silence, volume 3, chez Galilée, nous a incité à inviter Michel Onfray dans le studio de France Musique pour évoquer son hédonisme musical. Le Bach Collegium Japan, placé sous la direction de Masaki Suzuki, interprétait le chœur introductif de la cantate BWV 20 de Jean-Sébastien Bach, O Ewigkeit ou Donnerwort, O Éternité, mot de tonnerre, si on peut dire. Michel Onfray, est-ce que la musique de Bach est une musique cosmique? Je me rapproche au titre de votre livre Cosmos.
Oui, c'est peut-être même la musique cosmique par excellence. Enfin, j'écoutais avec vous, en votre compagnie, et je me disais, mais il y a la joie et l'allégresse de Mozart, il y a la puissance de Beethoven, presque de Wagner, il y a le chiffre de Boulez. Enfin, il y a plein de choses dans cette musique-là. Elle est extraordinaire. Elle, elle rend possible toutes les autres musiques. Et ça, c'est assez fascinant. Et puis, je pense en plus de ça qu'elle est physiologique, cette musique. On a un état du corps, c'est-à-dire un cœur qui bat, une respiration qui est particulière quand on se met à écouter cette musique. Et puis, d'un seul coup, on voit qu'on va respirer différemment, que notre sang va circuler différemment, parce que le corps va se mettre à l'unisson de cette musique. Et c'est un pouvoir vraiment magique et enchanteur qu'a Bach, et tout Bach. Moi, je peux prendre n'importe quoi de Bach un peu au hasard dans ma discothèque comme ça, et je sais que ça me produira toujours cet effet-là.
Est-ce que ça veut dire, Michel Onfray, que la musique sert sur vous davantage un effet sur le corps que sur l'esprit, ou les deux, ou les choses sont dissociées? Comment est-ce que ça se passe?
Mais vous savez, le matérialiste que je suis, oui, pense que l'esprit existe, mais qu'il est matériel. Donc, l'esprit, c'est du corps, le corps, c'est de l'esprit. Enfin, je crois qu'il y a, pour le dire comme les matérialistes du XVIIIe siècle, une seule substance diversement modifiée, donc la matière. Et que l'esprit, l'âme, je crois à l'âme, hein, bien sûr, mais pour moi tout ça c'est matériel, bien sûr. Donc la musique est une physique, cette physique entre en relation avec notre propre physique, notre mental obéit à une logique physique aussi, et tout ça est affaire effectivement de physique, c'est-à-dire de modification des flux. Ce sont des flux qui modifient d'autres flux. Ça touche le corps parce que ça touche l'âme, et ça touche l'âme parce que ça touche le corps.
Ouais. Mais en même temps, Bach a quand même l'image, et ce n'est pas qu'une image, d'un compositeur assez cérébral qui maîtrisait parfaitement la grammaire, le style de la composition. Donc il y a, au départ, un travail intellectuel très puissant.
Oui, mais ils sont tous dans ce cas-là. Vous savez, quand Vinci parle de causa mentale et de choses mentales pour la peinture, on pourrait dire la même chose avec un poème, la construction d'un poème, ou avec n'importe quelle autre œuvre d'art. C'est toujours une chose mentale. Parce que c'est une chose corporelle, entendons-nous bien. Hein. Le mental n'est pas quelque chose de spécifiquement séparé. On sait bien qu'à la Renaissance, et chez Vinci surtout, on est dans une grande logique néoplatonicienne. On a lu les commentaires du banquet de Platon de Marcile Ficin, et on est dans Botticelli, cette peinture-là, en procède. Et on a une âme éthérée, une âme qui est immatérielle, une âme qui est immortelle. Et en fait, c'est une variation sur le thème de Dieu. Moi qui suis pas du tout dans cette logique-là, je crois à l'âme, mais sûrement pas éternelle et immortelle. Elle est hélas dans un corps. Et elle disparaît en même temps que la disparition du corps, même si l'âme de quelqu'un survit dans la mesure où elle est en partie dans l'âme de quelqu'un d'autre. La personne que j'aime et qui est morte est toujours, son âme est toujours présente dans la mienne, dans mon âme, tant que durera mon âme. Et puis quand il n'y aura plus aucune âme pour la porter, elle sera définitivement morte.
Mais est-ce que ça veut dire que la réception de la musique, pour vous, Michel Onfray, est quelque chose de spontané qui passe d'abord par l'émotion?
Oui, sauf que l'émotion est cultivée. Elle n'est pas brutale. C'est-à-dire que si on va chercher un papou en Nouvelle-Guinée et qu'on le sort du village dans lequel il a passé toute son existence et qu'on lui demande d'écouter une pièce de Boulez, je ne suis pas bien sûr qu'il entrera dans cette œuvre, pas plus que moi je n'entre dans les ragas, par exemple. Je peux écouter des ragas, mais je veux dire, j'ai mon ami Valerio Adami, qui est le peintre que vous savez, et qui tous les ans fait des concerts de ragas pour ses amis, et j'ai du mal à entrer dans cette musique. Ça me désole d'ailleurs, hein. Quand je voyage un peu partout sur la planète, j'écoute toujours les musiques du monde. Quand je suis allé dans certains pays d'Afrique, j'ai écouté des musiques, le pôle Nord, les musiques chamaniques, ou ce genre de choses, ou le Japon, ou l'Inde. Mais en même temps, il y a des musiques, effectivement, qui font que quand je commence à les écouter, 2 minutes plus tard, je suis en train de penser à autre chose. Je me dis, mais la musique est là, tout de même. Et je n'entre pas.
Est-ce que là, c'est une question de culture, oui, ou de nature?
Non, il n'y a pas de nature qui ne soit pas une culture. Il n'y a pas une nature brute, c'est-à-dire on ne peut pas imaginer qu'un enfant arriverait au monde, se dispenserait de ses parents, se dispenserait du milieu. On est produit par un temps, des parents, un milieu, une époque, une famille. On écoute ou on n'écoute pas de la culture, on est sensible au bruit. Moi, je suis un gamin de la campagne, il n'y avait pas de musique chez mes parents. Mes parents étaient pauvres et il n'y a jamais eu d'éducation à la musique. Mais la nature m'a éduqué à la musique. Le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les roseaux, enfin le bruit de la rivière qui coule, ou ce genre de choses. Et on est sensible à ce genre d'émotions. Et on entre plus facilement dans un monde quand on y a été initié.
Arturo Benedetti Michelangeli interprétait Le vent dans la plaine, extrait du premier cahier des préludes de Claude Debussy. Michel Onfray, vous parlez de votre éducation musicale aussi par la nature, hein. Vous parliez du vent dans les arbres. Là, Claude Debussy a consigné le vent dans la plaine, dans le noir et le blanc de son piano. Mais j'ai lu quelque part, vous avez des formules un peu sévères à l'endroit de Debussy. Vous disiez que c'est de la musique pour musicologues, des Debussy plus aride que celui-ci, j'en conviens.
Ah oui, oui, les études par exemple. C'est vrai que je pense souvent aux études quand je dis des choses comme ça. Ça, c'est plus sensuel, c'est plus hédoniste. Qui plus est, le titre dit des choses. Il a écrit sur la pluie, Orbeck, enfin des pièces qui restent très sensuelles en même temps. Hein. Mais la raison, elle arrive toujours après. Et a priori, il y a toujours une émotion, une sensation, et il y a un corps qui dit des choses. Et mon corps n'entre pas en relation avec ce monde éthéré. C'est tout un monde éthéré, Debussy. J'adore Pélléas, j'adore l'opéra, et Pélléas est pour moi un des chefs-d'œuvre de l'opéra occidental.
Qui est pourtant un opéra vraiment de l'insaisissable. On ne sait pas, surtout Mélisande, on ne sait pas qui elle est, comment l'appréhender. On est vraiment dans le monde de...
Pas d'accord, là, non. Il y a plus de Cher chez Ravel, par exemple. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que Debussy est un cerveau, même quand il s'occupe de choses sensuelles. Voilà pourquoi je dis qu'il est cérébral, et voilà pourquoi je pense qu'effectivement il y a chez lui, c'est une bêtise que de le dire, mais toute la musique qui va suivre, pas toute la musique, mais une grande partie de la musique qui va dominer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a Boulez derrière ça déjà, qu'il y a tout le dodécaphonisme, le sérialisme, qu'il y a du Webern déjà, et je me dis, le silence prend trop de place chez Debussy. La musique n'est pas assez là, et elle est plus là chez Berlioz par exemple. Et j'ai toujours pensé qu'il y avait une vraie ligne de partage entre Berlioz et Debussy, avec un Debussy presque éthique mais sans H, maigre presque, et qui fait qu'on s'en va vers le chiffre, alors que avec Berlioz on va vers la matière, on va vraiment vers Varèse par exemple, vers Stockhausen, vers d'autres individus, même du Tilleux d'une certaine manière, des individus qui ont donné de la chair à la musique, qui ont donné corps,
avec ses énormes compositions orchestrales.
Vous avez absolument raison, bien sûr. Jacinto Chelsea par exemple, enfin les gens que j'aime du XXe siècle sont des gens qui effectivement ont fait du bruit, au bon sens du terme.
J'entends.
Et
pas
du tout ceux qui ont considéré que l'essentiel était le silence et que la musique était là pour faire place au silence et qu'il fallait composer juste pour laisser entendre le silence. C'est presque oriental, Debussy.
Oui, je comprends. Mais alors, est-ce que justement la raréfaction du matériau musical, est-ce qu'elle n'oblige pas à écouter davantage, à prêter davantage attention à la musique?
Les combinaisons, mais là je suis pas musicologue et ça me manque, et je suis pas musicien moi-même.
Non,
mais
auditeur.
Oui, bien sûr. Non, mais je pourrais probablement plus facilement trouver des mots pour ma réponse.
C'est comme en cuisine, si on met juste un petit ingrédient, mais un très bon produit, bien cuisiné comme il faut, alors un énorme plat.
Je suis pas sûr que ce soit entre le petit et le grand qu'il faudrait penser les choses. C'est entre la puissance et le défaut de puissance. Et ce que j'appelais l'éthique, le maigre, disons-le plutôt. Pas dire le maigre et le gras. Mais la puissance, j'aime la puissance en musique. Il n'y a pas de puissance vraiment chez Debussy. Il y en a parfois dans certaines œuvres, bien sûr, le prélude, la mer. Il y a des choses, bien sûr, dans lesquelles il y a de la puissance. Mais il y a des œuvres qui sont très retenues. Je pense que ce que vous nous avez fait entendre là tout de suite, c'est très retenu, par exemple. Et Benedetti Michelangeli, en plus de ça, est l'homme de cette retenue. Moi, j'aime bien Samson François, par exemple. J'aime bien les gens qui mettent de la matière dans leur interprétation et qui sont susceptibles de ramener cette musique au monde parce que j'ai l'impression qu'elle nous en éloigne.
Thank you.
Montserrat Figueras, Maria Cristina Kir, la Capella Reale, placée sous la direction de Jordi Savall. C'était un extrait du Pulcra S des Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi. Michel Onfray, cette musique pour vous qui est une musique religieuse, est-ce qu'elle est ascétique? Est-ce qu'elle est hédoniste? Est-ce qu'elle a du plaisir? Est-ce qu'il y a de la sensualité dans cette musique, bien que ce soit une musique destinée à l'Église? Comment est-ce que vous organisez votre discours justement entre cette dichotomie entre ascétique, hédoniste?
Il faudrait qu'on consacre la totalité de cette émission à ce sujet. D'abord, je voudrais pas blesser les chrétiens, enfin ceux qui croient à l'existence historique de Jésus. Moi, je n'y crois pas. Je pense que la vérité, d'une certaine manière, est plutôt chez Jean, dans l'évangile de Jean, qui nous dit que le Christ est Logos, qu'il est Verbe. Donc il y a un Verbe qui est celui de l'Ancien Testament, et le Verbe de l'Ancien Testament nous dit un prophète un jour arrivera et il fera ceci, il dira cela, etc. Ce sont les Juifs qui le disent. Et puis des Juifs parmi les Juifs disent ce prophète n'est pas à venir, il est venu, il s'appelle Jésus. Et il a dit ceci, il a fait cela, etc. Toutes choses qui sont déjà dites dans l'Ancien Testament. Évidemment, c'est une secte qui se constitue, qui va devenir une religion à partir du moment où Constantin va dire « je me convertis, je convertis l'Empire au christianisme » et on a le judéo-christianisme et la religion qu'on connaît. Et il y a un moment donné où, évidemment, l'art est partie prenante dans cette affaire.
Bien sûr.
Est-ce que l'art va dire Dieu? Est-ce qu'il va dire Jésus? Et très vite, il s'agit de dire la puissance. Constantin nous dit, si j'ai gagné au Pont Milvius, c'est parce que le Christ m'est apparu, la croix du Christ m'est apparue dans le ciel, et donc le premier bijou orné avec des pierres précieuses, etc., c'est le début de l'art chrétien. Et l'art chrétien va donner toute sa forme à ce Verbe, toute sa chair, à ce corps qui n'existe pas. Jésus est un concept. Et l'art va contribuer à donner de la chair à ce concept. Et la musique contribue à ça. Mm-hmm. C'est-à-dire, toute la musique va contribuer à dire, eh bien, voilà une voie d'accès au sacré et au divin. Il est transcendant, Jésus, il est le Christ, assis à la droite de Dieu, etc. Et si on veut accéder à cet univers, alors on y accède par la musique, par la peinture, par la littérature, etc., bien sûr, mais aussi par le chant. Donc on a d'abord la monodie grégorienne, puis après la polyphonie, puis on se dit, mais est-ce que le texte est important? Est-ce que le texte, ça n'est pas affaire de diable? Et puis, enfin, il y a tout un débat, évidemment, extrêmement important sur la question de la musique. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de civilisation sans religion. Il y a toujours une spiritualité derrière une religion, une civilisation. Il n'y a pas eu d'exemple dans l'histoire de l'humanité d'une civilisation qui n'ait pas été portée par un texte sacré. Donc le nôtre, on le sait, c'est la Bible. Enfin, c'est plutôt le Nouveau Testament. Non, c'est la Bible. Et la musique, elle est de toutes les civilisations. Donc il y aurait une autre musique. Quand on me dit, vous êtes athée, mais il n'y aurait jamais eu Bach, etc. Mais Bach aurait fait de la musique et avec une autre civilisation, dans une autre configuration. Et voilà. Donc bien sûr, la musique est là dans l'absolu, indépendamment d'un sacré particulier. Et elle nous renvoie au monde. Moi, je suis très schopenhauerien en ce sens. La musique, elle ne dit rien d'autre que le monde. Ce qu'on entend, c'est un fragment du monde, c'est un fragment détaché du monde. Et alors après, on lui donne des sens différents. On nous dira que ce monde, il est céleste, qu'on entend dans cette musique de Monteverdi quelque chose qui serait la voix des anges, qui serait le paradis, la sérénité d'un monde au-delà, ou ce genre de choses. Mais ce ne sont jamais que des mots qu'on met parce que on nous a éduqués à mettre ces mots-là sur cette musique-là. Si on enlève ces mots-là, et que je reprends mon exemple du papou de tout à l'heure, le papou qui ignore l'existence de Jésus, du Christ, etc., de toute la mythologie chrétienne, quand on lui fait écouter cette musique, il entendra de la musique. Et la musique, pour lui, sera juste un fragment du monde. Mais comme c'est un fragment choisi, on entend bien le siècle de Monteverdi. Comme tout à l'heure, on entendait bien le siècle de Debussy. Il y a le fameux Zeitgeist des Allemands, l'esprit du temps.
Oui.
Et on entend l'esprit du temps, ou on voit l'esprit du temps dans tout. La peinture, la musique, la littérature, ça sent son époque, ça sent son temps. Et en ce sens, le sacré pour moi est un mot que je ne refuse pas, il y a du sacré pour moi, mais c'est un sacré dans l'immanence, c'est pas un sacré dans la transcendance. Ça ne renvoie pas au-delà du monde, ça renvoie à ce monde même, d'où l'intérêt de la méditation du monde tel qu'il est, de la poésie, des haïkus, ce genre de choses qui sont autant d'occasions pour moi d'aller voir à quoi ressemble le monde. Pour moi, la musique est une occasion d'aller voir à quoi ressemble le monde.
Mais là, dans cette musique sacrée, le caractère quand même sensuel, immédiatement hédoniste que l'on perçoit, n'est pas exclu dans cette musique sacrée de Monteverdi.
Non, vous avez raison.
La musique baroque en général, de l'art baroque, de la peinture, de la sculpture. Il suffit de voir le Bernin, choses comme ça,
oui.
qui sont parfois d'une ambiguïté même trouble sur des œuvres sacrées.
Il faut s'entendre aussi sur l'ascétisme et sur l'hédonisme. L'hédonisme, la plupart du temps, il est trivial, il est grossier, il est vulgaire, il est corporel, etc. Pendant que l'ascétisme, lui, serait idéal, serait conceptuel, serait... Moi, je m'oppose à ça, évidemment. Pour moi, l'hédonisme n'est pas une espèce de grossièreté d'une sensualité qu'on lâcherait, quoi, comme on lâche des chiens, ouais, ça n'a rien à voir. Mais cette sensualité-là, elle est culturelle. On nous y éduque, sinon on n'y accède pas. Alors bien sûr que le catholicisme, puis le protestantisme, on dit des choses sur la musique en nous disant qu'il fallait du décorum, par exemple. Il y a eu des moments avec la réforme, la contre-réforme,
bien sûr,
où on nous disait mais la musique sert. Elle n'est pas une fin en soi, mais elle est un outil. Donc bien sûr, quand on veut l'austérité, quand on veut retrouver la vérité du texte quand on est protestant, eh bien la musique va chercher aussi la vérité du texte. Et elle va être dans une ascèse qui n'est pas sans hédonisme.
Alice Adair interprétait au piano dans L'air du soir, un extrait du cycle éphémère au pluriel de Philippe Hersant. Michel Onfray, ce cycle de Philippe Hersant éphémère est composé d'après des poèmes, d'après des haïkus de Bachot, un poète auquel vous êtes sensible et vous-même avez écrit donc des haïkus. Le dernier, c'est l'éclipse de l'éclipse. Avant le silence, est-ce qu'il y a une démarche musicale dans cette écriture, puisque pour vous aussi la musique vous a appris à écrire? Est-ce qu'avant le silence, il y a une connotation musicale à cette démarche?
Non, c'est vraiment j'avais démarré ça, j'ai perdu ma compagne d'un cancer et je l'ai accompagnée pendant 13 années dans les hôpitaux. Et c'est vrai que c'est difficile de lire des gros livres quand on est à l'hôpital, qu'on est dans une salle d'attente, qu'on est au pied d'un lit, qu'il y a des gens qui parlent à côté ou ce genre de choses. Et j'avais retrouvé des haïkus. Je dis retrouvé parce que j'avais un ami j'ai toujours un ami, il est d'ailleurs toujours au Japon, et qui m'avait initié au haïku quand j'avais une vingtaine d'années. J'étais pas très sensible et là j'ai eu un vrai coup de foudre et j'ai découvert effectivement que il y avait une vérité dans cette poésie qu'il n'y a pas dans notre poésie qui triomphe aujourd'hui, et c'est une poésie souvent verbale et verbeuse, alors que le haïku il exige qu'on ait ressenti quelque chose, il exige une émotion, donc on peut pas mentir, on peut pas faire semblant.
Et on concentre presque
concentre
le monde en trois lignes.
Absolument, donc c'est du Webern, hein.
Exactement.
Sur le terrain musical. Et je me suis dit tiens, je vais en écrire quelques-uns avec le, parce que d'un seul coup quand on lit des haïkus, non pas qu'on ait envie tout de suite d'en écrire, mais on se met à voir le monde autrement, différemment. Et donc j'ai commencé à écrire, et puis je me suis dit 1, 2, 3, etc. Puis ça a continué. Et puis ma compagne est décédée, Et il se fait qu'il y a un moment donné où j'ai eu envie d'un vrai silence, mais d'un complet silence. J'ai toujours envie de ça d'ailleurs, de partir un jour en disant « maintenant j'arrête, j'ai trop parlé ».
Est-ce que vous avez trop écouté ? Parce que j'ai lu quelque part que vous n'écoutez presque plus de musique.
Oui, bah justement, cette espèce d'exigence de l'écriture qui fait qu'aujourd'hui, tout passe par ça, quoi. Je ne fais que ça, je travaille tout le temps, j'écris.
Donc vous écrivez sans musique ?
J'écris sans musique maintenant, oui. Mais je ne fais plus rien non plus en dehors de l'écriture. Parce que tout va, ce que nous sommes en train de nous dire, enfin tout ça, pour moi, j'écris des choses, je crois un certain nombre d'idées, je porte ces idées, tout ça se tient. Mais il y a un moment donné où je pourrais complètement arrêter d'accompagner ce que j'écris de verbes. Et ce silence-là, ce serait une façon d'entrer en relation avec le silence de ma compagne. Moi, je suis athée, elle était athée aussi. Je ne crois pas qu'elle m'écoute et qu'elle m'entende et que, voilà, quoi. C'est un néant qui ne manquera pas de venir. Il viendra parce qu'un jour je mourrai, bien sûr, évidemment, mais c'est un néant qui peut venir plus tôt que prévu. J'avais écrit Le recours aux forêts, toujours chez Galilée, et c'était aussi une invitation à réfléchir sur ce retrait du monde. Il y a un moment donné où on peut avoir envie de dire « bon, allez, j'ai trop parlé, la place aux autres maintenant, et moi j'ai envie de silence, de calme, de méditation, de regard dans la nature qui me permettrait de voir des choses, ou etc. » Je vais vous faire une confidence, je pars dans quelques jours à la trappe. Je vais m'enfermer quelques jours pour lire La vie de Rancée de Chateaubriand. Et donc les moines de l'abbaye m'accueillent et j'ai très envie de ce silence. Je crois que nous sommes devenus des esclaves de nos téléphones portables, de la vie, du bruit, enfin de toutes ces choses-là. Et qu'il y a dans les monastères, et je suis toujours sans Dieu, hein, qu'on n'aille pas croire que je m'en vais chercher.
Il est révélation.
Oui, non. Mais j'ai envie du silence, du calme, du repos. Et puis tester un peu ce calme et ce silence et ce repos. Et ça n'exclut pas qu'un jour, ce soit vraiment, non pas avant le silence, mais qu'avant silence soit une époque, et que je puisse dire, eh bien voilà, j'entre dans le silence, place aux autres.
Merci Michel Onfray. Je rappelle la parution de l'éclipse avant le silence chez Galilée. Par ailleurs, la réédition en livre de poche, dans la collection J'ai lu, de Cosmos, le premier volume de votre brève encyclopédie du monde, et puis le deuxième, Décadence, vie et mort du judéo-christianisme, qui vient tout juste de paraître. Merci à Mathieu Leroux, à Géraldine Prutner et à Annie Comier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de France Musique.